Huguette Layette, comment allez-vous en tant que mère?
Pas bien du tout.
Pourquoi?
Parce que nous avons de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de finances et de moins en moins de respect de la part des gouvernants et des administrés.
Ce manque de respect, de considération, ils sont nombreux, les maires de France, à l'éprouver quotidiennement. À la fin du printemps, plus d'un millier des 36 000 maires élus en 2014 avaient démissionné. Des maires de banlieue, comme le sevranais Stéphane Gatignon, dont la défection en mars avait fait grand bruit, il entendait notamment dénoncer le désengagement de l'État dans la gestion des problèmes des quartiers. Mais le blues ne touche pas que des édiles de banlieue. La plupart des démissionnaires sont des maires ruraux. En un an, selon le centre d'études de Sciences Po, la confiance que les Français accordent à leur maire a chuté spectaculairement, de 64 à 55%. Et pourtant, ils restent, et de loin, nos élus préférés, particulièrement dans les petites communes.
C'est un peu comme un parent très proche qu'on a besoin. On a besoin de difficulté de quelque chose. C'est à elle qu'on doit s'adresser. Hein.
C'est vers eux qu'on se tourne quand un lampadaire ne fonctionne pas ou quand il y a un nid de poule sur la route de l'école. Ils ont en charge la sécurité publique, l'état civil, la circulation. Et on les rend responsables de bien des désagréments du quotidien. Ils sont aussi bâtisseurs ou garants du patrimoine, à tel point que sans eux, la France aurait un autre visage.
Si la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de deux siècles, vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui travaillent à gérer ce patrimoine culturel, à gérer le territoire.
Campagne au bord de la crise de mer, c'est un reportage de Géraldine Allot et Stéphane Combe.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Castillon est un village typique de l'arrière-pays niçois. Les maisons sont en pierre, accrochées à la montagne. Nous sommes tout près de Menton et de la frontière italienne. Il y a un grand ciel bleu. Et nous avons rendez-vous avec le maire, ou plutôt l'ancien maire de Castillon.
Bonjour, donc je suis Philippe Rion, je suis l'ancien maire de la commune de Castillon. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ici. Et si vous voulez bien, je vous emmène chez moi.
On monte dans votre voiture ?
Oui, bien sûr, je vous en prie. J'ai pas l'habitude d'avoir des journalistes dans la voiture. Alors, vous êtes à la radio, donc vous n'aurez pas l'occasion de transcrire le paysage. Mais vous verrez que ce paysage est magnifique. Donc, je vais présenter la commune. Castillon, c'est une petite commune de 400 habitants qui a eu une histoire relativement tourmentée. Puisque c'est un village qui a été détruit en 1887 par un tremblement de terre, reconstruit 100 mètres plus bas pour être à nouveau détruit en 1944, et reconstruit donc une troisième fois à l'endroit que l'on vient de quitter en 1951. Voilà, donc c'est une commune martyre, on va dire. Donc j'ai été maire de cette commune pendant 10 ans, puisque j'ai été élu la première fois en 2008 et j'ai démissionné donc de mon mandat d'élu au mois de février de cette année.
C'est vraiment un village à flanc de montagne.
Voilà, ce sont des villages compliqués par la géographie, à tous les niveaux, au niveau accessibilité, ramassage des ordures, dans tous les domaines, le relief nous aide pas.
Vous maîtrisez les virages en lacets pour vivre à Castillon.
Alors ici, vous êtes déjà sur les routes du rallye de Monte Carlo. Donc on est sur la route du col du Turini, pour ceux qui connaissent. Donc oui, c'est des endroits où la conduite peut être compliquée. Et c'est aussi des endroits où, pour y habiter, il faut avoir... Les ménages ont plusieurs voitures, donc ça induit aussi pas mal de choses.
Philippe Rion, vous avez donc 62 ans, vous avez été maire pendant 10 ans, vous avez démissionné en février.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, parce qu'aujourd'hui, j'estimais que je n'étais plus en capacité de remplir ma mission. La situation des maires, et notamment des maires des communes rurales, sont devenues très compliquées. Alors, il y a eu effectivement la baisse des dotations, on a eu l'occasion d'en parler, mais il y a aussi le fait que le maire, aujourd'hui, perd en compétences, et je me suis senti complètement inutile. J'avais l'habitude de dire que j'étais un petit peu comme un... Vous savez, ces insectes qui sont pris dans un réverbère, je me cognais partout, aucun de mes projets n'aboutissait, parce qu'aujourd'hui, les relations avec l'État sont devenues très compliquées, pour pas dire conflictuelles. Donc, j'ai préféré tout arrêter, ne me sentant plus en capacité de remplir ma mission correctement.
Quand vous dites que les dotations sont en baisse, concrètement, ça représentait quoi pour votre budget ?
Alors, il y a plusieurs dotations. Globalement, si on prend toutes les dotations de l'État, j'ai eu une baisse de dotation sur la commune entre 2013 et 2017 d'environ 35%. Donc ça nous a mis vraiment dans des difficultés relativement importantes, parce que dans des communes comme celle de Castillon, qui n'a peu de rentrée d'argent, le moindre manquement financier a des répercussions terribles. Alors on a tenu un certain nombre d'années, jusqu'au moment où, contre toutes mes convictions, il a quand même fallu augmenter les impôts. Donc ça a été un moment très difficile à vivre.
Et ça avait quoi comme impact dans le fonctionnement de votre commune ?
Au niveau du budget, il a fallu rapidement couper sur toutes les lignes budgétaires de fonctionnement. Donc on a préservé tout ce qui était directement lié à la population. Mais oui, après, il y a des choses qu'on a pu faire. Alors, j'ai pris une décision un petit peu emblématique. C'est que j'ai, en 2015, arrêté de faire les commémorations, par exemple. Et j'ai arrêté de commémorer le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. Alors, c'était emblématique, parce que toucher aux commémorations, ça touche quand même à l'image même directe du pays, quand même, hein. C'est important. Mais c'était aussi pour envoyer un signal, pour dire attention, on vit mal. Et en plus, et c'est ça qui a débordé le vase un peu quelque part, c'est que à un moment donné, on se rend compte que l'État n'est plus là pour nous aider. Moi, j'en veux beaucoup à l'État aujourd'hui, hein, qui est plutôt un censeur, qui est plutôt là pour verbaliser plutôt que pour aider. Je vais vous donner un exemple qui est en rapport un petit peu avec l'actualité. On avait l'intention de développer un peu le tourisme. Et un moyen de développer le tourisme, c'était de faire rentrer cette commune dans le parc national du Mercantour. Donc on a fait une demande au parc national du Mercantour, qui a répondu favorablement. Et bien là, on s'est fait contrer par l'État. Alors ce que je vais dire, ça va avoir une certaine résonance aujourd'hui. On a été contré par l'État parce que ça ne plaisait pas aux chasseurs, parce qu'il y aurait eu une zone sur laquelle ils n'auraient pas pu chasser. J'ai écrit à Nicolas Hulot, et ce dossier aujourd'hui est mort. Ce dossier n'aboutira pas parce qu'il y a des gens plus puissants que nous, parce que c'est un territoire de chasse. Et donc, la volonté de la commune, des élus, passe au second plan.
C'est ça qui a été l'élément déclencheur, la baisse des dotations, vos mauvais rapports avec l'État ?
C'est tout ça, oui. C'est à la fois un ensemble jusqu'au jour où la coupe, elle est pleine, quoi. Oui, mais c'est comme ça au quotidien, tout le temps. Il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave parce que moi, je me suis rendu compte. Quand j'ai démissionné, je ne savais pas qu'il y avait autant de maires qui démissionnaient. Ça, je l'ai découvert après. Les élus gèrent les communes depuis plus de 2 siècles, depuis la Révolution française. Si la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de 2 siècles, vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui travaillent à gérer ce patrimoine culturel, à gérer le territoire. Si demain... on supprime toutes nos petites communes, tout notre patrimoine architectural, des églises, des monuments, qui va l'entretenir ? Donc là, il y a une vraie richesse qu'on est en train de laisser partir à volo.
Je m'appelle Jean-Luc Guizolfaux, j'habite au village depuis 6 ans maintenant. Je suis ancien conseiller municipal, j'ai été conseiller municipal jusqu'au mois de décembre.
Philippe Rion a démissionné en février parce qu'il protestait notamment contre la baisse des dotations de l'État. C'est un coup d'éclat qui a fait pas mal parler. Qu'est-ce que vous en pensez sur le fond ? Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, je suis d'accord, mais après, moi, je suis quelqu'un qui voit vers l'avenir. C'est inéluctable, on va dire, c'est l'avenir, quoi, malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part, oui, on va ronchonner, on va râler, mais ça changera rien. Donc, au contraire, quand on voit que quelque chose, on peut pas le changer, mais il faut s'y adapter, et s'y adapter le mieux possible, pour moi. Donc, voilà, on se plaint que les cartes d'identité sont plus gérées dans les communes, qu'il y a énormément de chances qu'ils sont plus gérées dans les communes. Après, avec aujourd'hui, avec Internet et tout ce qui se passe, les gens s'y adaptent, hein, je dirais. C'est, malheureusement, c'est la vie, quoi, je veux dire.
Donc pour vous, ça ne vous dérangerait pas à l'avenir d'aller jusqu'à Menton, à 10 km de là, pour tous les services qui avant relevaient de la mairie ?
Vous savez, quand vous avez besoin, par exemple, bon, moi, je suis dans un domaine de la musique et du hi-fi, quand vous avez besoin de quelque chose d'important, vous allez sur Nice, vous allez sur Cannes. Donc, oui, on y est habitué. Donc, on travaille sur Monaco, par exemple. Donc, pour travailler, on fait déjà 30 km par jour. Donc pour une carte d'identité ou autre chose, sachant qu'aujourd'hui, se déplacer, non, dans quelques années, on ne se déplacera même plus. Dans quelques années, ça sera tout sur Internet, c'est toutes les choses comme ça. D'abord, les générations qui arrivent, moi je prends un exemple, ma fille qui a 30 ans, elle fait tout par Internet, elle fait même ses courses. Alors on se dit toujours, oui les anciens, mais les anciens, un jour, ils ne seront plus anciens, ils ne seront plus là. Et c'est des générations de maintenant qui ont repris la place et qui géreront avec ces outils-là, comme je veux dire.
Donc l'avenir, ce n'est pas 36 000 communes en France?
À mon avis, non. Pour moi, non.
Le village de Castellar est situé tout près de Castillon, à quelques kilomètres seulement, dont nous sommes également sur les hauteurs de Menton. Il y a un peu plus de 1000 habitants ici. Et devant nous, c'est la mairie, un bâtiment couleur ocre, baigné par le soleil en cette fin de matinée.
Gatelayer, maire de Castellar, bonjour.
Vous êtes maire de Castellar depuis...
Depuis 2004.
Gatelayer, comment allez-vous en tant que maire?
Pas bien, pas bien du tout.
Pourquoi?
Parce que nous avons de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de finances et de moins en moins de respect, je dirais entre guillemets, de la part des gouvernants et des administrés. Le ras-le-bol, c'est un tout, c'est le fonctionnement qui général, je veux dire. Vous savez, un maire d'une petite commune, donc Castellar à 1200 habitants, on est là 24 heures sur 24, on répond 24 heures sur 24. C'est le rôle, ça fait partie du jeu. Mais je veux dire, à un moment donné, un maire d'une petite commune, il touche 1000 euros par mois. Vous n'avez pas de vie de famille, vous n'avez pas de vacances. Mais ça fait partie encore une fois de l'engagement que vous faites. Mais quand vous avez un engagement, que vous prenez un engagement, que vous voulez réaliser des choses, ou alors que vous voulez apporter un certain mieux vivre à votre population, et que on vous écoute pas et on vous méprise parce que vous êtes un petit maire ou parce que vous rentrez pas dans le moule, parce que politiquement vous faites pas partie de l'élite, on va dire, qui est reconnue au niveau national, vous êtes absolument bloqué sur tous les dossiers.
Vous, il y a des projets que vous avez développés pour votre commune qui n'ont pas pu aboutir?
Non, parce que je fais partie de ces personnes qui se battent. Mais c'est peut-être pour ça que j'en ai un peu ras-le-bol, parce que je suis épuisée de me battre sur tous les dossiers, de pas être entendue. Donc c'est vrai que je force des portes. J'en ai un exemple, c'est un exemple concret. Quand je suis arrivée, que j'ai pris la commune en 2004, on était à 700 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1200. On a un réel problème de stationnement de voitures. Ça fait depuis que je suis élue que je dis qu'il faut faire un parking en début à l'entrée du village. Et depuis le début, je m'oppose à une fin de non-recevoir par les architectes des bâtiments de France qui me disent que non, que ce parking-là, il peut pas se faire à l'entrée du village, qu'il faut que je le fasse un peu plus bas, c'est-à-dire 200 mètres plus bas, où il y a une pente de plus de 10%, et point barre, et je peux pas faire autrement. Donc aujourd'hui, je suis en train de réaliser un parking de 100 places, un budget de 500 000 euros, en contrebas, parce que l'architecte des bâtiments de France a pas voulu que je le fasse à l'entrée du village. Alors, les gens qui ont des poussettes, les familles qui ont des poussettes, ou qui sont chargées, qui ont des courses, tout ça, c'est problématique, surtout quand il pleut. Donc, c'est sans arrêt qu'on me fait la remarque. C'est sans arrêt qu'on me dit que ce que je suis en train de réaliser, c'est pas, on rend pas service au Castellarois. Et je dis que c'est vrai. Mais quand je réponds, mais vous savez, je suis pas responsable, parce que j'ai un refus, et que je suis obligée de le faire comme ça, mais les gens, ils comprennent pas, ils me croient pas.
Mais est-ce que ce n'est pas normal qu'il y ait aussi ces autorités, notamment les architectes de France, des bâtiments de France, pour dire attention, on ne peut pas construire n'importe comment, on ne peut pas construire à tout va?
Oui, oui, non, mais tout à fait. Moi, je ne conteste pas les règles. Ce que je conteste, c'est la manière de les appliquer. Du fait que on décide avec un plan. Moi, ce que je dis, c'est venez sur place, venez vous rendre compte de comment on travaille, de ce qui se passe réellement, concrètement, sur le terrain. Et après, vous prenez vos décisions et vous dites oui ou non. Ou alors, on laisse les bureaucrates décider et gouverner une municipalité. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui va se passer. Je veux dire, et je crois même que c'est l'objectif.
Est-ce que vous souhaitez vous représenter en 2020 ?
Non, je ne me représenterai pas en 2020, c'est une chose certaine. Ça fait 3 mandats, je pense qu'il est temps de laisser la place.
Vous en avez
assez ? Ah, plus qu'assez, oui.
Interception sur France Inter.
Excusez-moi, je cherche la mairie, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, je fais un reportage sur les maires en milieu rural.
Ici, c'est le village d'Étavigny. Dans l'Oise, il y a essentiellement des habitations plutôt modestes et des exploitations agricoles. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est le jour où le maire est en mairie pour recevoir les habitants qui le souhaitent.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Étavigny. Donc, je suis Delphine Hoffmann, maire de la commune, petite commune rurale de 160 habitants au sud-est de l'Oise. Nous avons une population essentiellement d'actifs qui travaillent sur Roissy et qui sont dans notre village, on va dire juste pour y habiter. Donc c'est un petit peu un village dortoir.
La mairie à Étavigny n'est ouverte que le mercredi de 17h30 à 19h30, donc là on y est.
Oui.
Alors le reste du temps, vous êtes où ?
Alors, beaucoup chez moi, mais dans mon bureau, avec l'ordinateur. Alors c'est vrai que c'est l'avantage des moyens de communication modernes qu'on a. C'est vrai que c'est pas très visible, hein. Les gens oublient, ils pensent qu'il y a personne à la mairie, donc Madame le maire ne travaille pas. Non, ce n'est pas comme ça. Je travaille énormément chez moi, des fois je me couche même très tard parce que je finalise un projet. Je me couche assez tard aussi parce que des fois on a des réunions, hein. Beaucoup de réunions sont en fin de journée. Réunion de comité de commune, elle commence à 19h et des fois elle se termine à minuit, hein. Ça arrive.
Vous n'êtes élu maire que depuis 2014, c'est votre premier mandat en tant que maire, vous avez 49 ans. Pourquoi vous avez décidé de jeter l'éponge en 2020, de ne pas vous représenter ?
Principalement parce que je suis fatiguée. Le mandat de 6 ans, c'est quand même très très long. Ça, faut pas perdre de vue que quand on commence, déjà, on sait pas trop ce qui nous attend. Il y a quand même un gouffre entre ce qu'on a aperçu sans mettre les mains dedans et une fois qu'on a les mains dans le cambouis, hein, on se rend compte que c'est énorme. C'est énorme et puis on est tout seul à essayer de se dépatouiller avec des problèmes de divers et variés. Alors il y a de tout, hein. Il y a de
comme quoi.
Alors ça peut être déjà il faut avoir de bonnes connaissances dans beaucoup de domaines. Alors en urbanisme, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des connaissances aussi en fiscalité, en budget, en état civil. Après on a beaucoup de réunions aussi avec l'école, donc faut quand même un peu comprendre comment fonctionne une école. Assez très pointu, il faut être bon dans beaucoup de domaines. Et on n'a pas. Moi, j'ai pas fait de formation pour être maire, donc il n'y en a pas d'ailleurs. C'est bien ça le problème.
Quelle est la chose la plus ubuesque pour laquelle on vous a demandé d'intervenir ?
Alors, ubuesque, je ne sais pas si j'en ai, mais j'ai eu des coups très durs. Des choses à faire où. C'était soit pas agréable, soit... Alors, j'ai eu, par exemple, à annoncer le décès du mari d'une administrée en plein milieu de la nuit. C'est vraiment terrible. Je pensais pas que c'était le rôle du maire de faire ça. Et en fait, c'est la gendarmerie qui m'a demandé de les accompagner et donc de faire cette annonce. Donc, moment très, très difficile. Sinon, j'ai d'autres petits moments. Alors là, c'est plus ça prête à rire, mais ça faisait peut-être 6 mois que j'étais en place. On a eu un souci avec la fosse septique de l'école. Donc, il a fallu remonter les manches, ouvrir le couvercle de la fosse septique, aller voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et je dis pas que c'est du quotidien, heureusement, mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de le faire. Et bon, moi, je le fais parce que Ça ne me gêne pas plus que ça, mais je reconnais que c'est pas vraiment le rôle d'un maire. Et je le fais aussi parce que je me dis, ben, il faut quand même comprendre le fonctionnement de tout, y compris de l'école et de sa fosse septique.
Donc vous faites tout. Une espèce de lien social, quoi, c'est ça?
Oui, oui, et d'ailleurs, ce rôle, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Les gens sont contents de discuter. Et heureusement, j'ai des bons retours. Hein. J'ai quand même pas mal d'administrés qui me disent « Ah, c'est bien ce que vous avez fait ». Notamment, on a refait il y a 3 ans le parvis de l'église et les gens sont très contents, disent que c'est vraiment très beau. J'irai au bout de mon mandat, ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, voilà, comme je disais, je ne me représenterai pas parce que c'est vraiment usant et que c'est un sacrifice. Et donc, je laisse ma place à qui voudra. Mais ça, là, on aborde un autre problème, c'est que personne ne veut la prendre la place. Personne ne veut prendre ce rôle. Trop de responsabilités, trop de travail. C'est quand même, faut reconnaître que c'est un métier à part entière. Hein. Moi, je ne travaille pas, mais je ne sais pas comment mes collègues qui travaillent, eux, font pour concilier ces deux vies, hein, parce que c'est quand même très très prenant. Là, je vois, il est 6h10, il n'y a pas trop de monde qui arrive, donc j'irai bien voir la dame qui habite en face. C'est une administrée qui habite Étavigny depuis toujours. Et comme j'ai vu tout à l'heure qu'elle est arrivée avec une ambulance, j'aimerais bien prendre de ses nouvelles. Donc je vous invite à me suivre, on va aller la voir. Très loin de la mairie, donc si jamais quelqu'un arrive entre-temps, je pourrais repartir vite fait à la mairie.
Restez assise, hein, vous n'embêtez pas.
Non, mais je reviens de l'hôpital, naturellement.
Oui. Je vous présente Madame Allot, qui est journaliste à France Inter.
Puis elle a trouvé une chaise, asseyez-vous.
Oh, ben c'est à vous qu'il faut dire ça. Oh, vous êtes debout, là. Mettez-vous à l'aise chez vous, n'est-ce pas?
Ben voilà, j'aime bien me mettre là sur le banc.
Attendez, je vais vous faire un petit peu.
Là, c'est votre valise. Oui, voilà. L'autre qui me fatigue surtout en ce moment, c'est que j'ai attrapé la crève et puis je m'en sors pas. Tout s'est craché, mouché, c'est épouvantable. Bon, mais sinon, ma pointe de santé, ça va.
Oui, j'allais dire, vous avez toujours la santé, hein, Madame Arlet. À chaque fois que je vous vois, vous allez bien quand même. Ah oui, vu votre âge.
Avec les petits problèmes.
Oui, bah, ça c'est normal, hein. C'est... On vieillit, on rajeunit pas.
Bah oui.
Comment vous appelez, madame?
Arlet Yvonne.
Là, on est avec madame la maire. Elle est utile pour vous, pour la commune?
Pour la commune? Elle est formidable. J'ai connu bien des maires, hein, parce que j'ai 87 ans. Je peux dire que j'en ai vu quelques-uns. Mais alors, elle est impeccable. Ah oui, elle a fait beaucoup de choses. La place de l'église rénovée, l'école, la mairie. Qu'est-ce que vous avez encore fait?
L'éclairage public.
Ah oui, oui, plein de travaux comme ça. Bah, écoutez, c'est formidable, hein, pour la commune. Qui n'avait jamais rien vu parce qu'elle s'en allait plutôt en ruine. Bon, ça fait quand même du bien.
Mais vous savez qu'à 49 ans, elle a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections en 2020.
C'est dommage. C'est dommage de la perdre. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on va retrouver comme maire?
Dans un petit village comme ici, 160 habitants, en quoi un maire, c'est important?
C'est un peu comme un parent très proche qu'on a besoin. On a besoin de difficultés ou quelque chose. C'est à elle qu'on doit s'adresser. Hein. Ben, on a un problème de papier ou n'importe. Bon, ben, Delphine, tu es là. Ben voilà.
Voilà, donc Madame Arlet, elle a mon numéro et elle n'abuse temps, pas. Oui, elle, de temps en temps, elle me dit « Ah, j'ai plus de piles, par exemple, j'ai plus de piles dans mon programmateur de radiateur. » Voilà, donc je viens de lui changer ses piles.
Pour vous, c'est une pacotille, voilà, mais pour moi, c'est quand même un grand service.
Oui. Voilà. Madame Arlet, on va vous laisser, hein, fois que quelqu'un arrive à la permanence. Donc,
oui, d'accord.
On va vous laisser.
Voilà. D'accord.
À très bientôt.
À très bientôt.
Prenez soin de vous. Oui. Hein.
Vous pouvez me crocher à la grille, s'il vous plaît.
Oui, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude.
Thank you. comment ça se fait que vous m'avez refusé ma demande de certificat d'urbanisme?
Alors, je m'appelle
Mériguet.
Pas du tout.
Vous savez que je suis dans mon droit vis-à-vis de les lois, je suis dans mon droit.
Écoutez, pas de problème. Moi, j'ai pris l'arrêté qui me semble adéquat en fonction du respect du PLU.
PLU voilà. Lequel? Vous ne respectez pas le PLU, madame le maire.
Ça, je vous dis, on y repensait.
Ben oui, mais je m'en doute. Hein. Je m'y suis déjà préparée, figurez-vous. Et une fois de plus, monsieur Mériguet,
oui.
Ce n'est pas, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas parce que vous vous appelez monsieur Mériguet. Ce projet-là, n'importe quel autre administré m'aurait présenté ça. Ça ne correspond pas aux préconisations du PLU, donc je le refuse.
Oui, Barbara.
Bon, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée.
Mais vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir. Bon, c'était sans surprise. Hein. Vous avez assisté, là, je crois, à la plus belle démonstration de la difficulté d'être maire. Faire face comme ça à des administrés extrêmement procéduriers qui veulent pas entendre raison et tout se solutionne à coup de procès. Donc voilà, vous l'avez entendu, on va droit vers un procès. On va faire face. Hein. Moi, je reste déterminée. J'ai pris la bonne décision, qui me semble la meilleure pour les intérêts de la commune et qui est tout à fait conforme au PLU. Donc voilà.
Il y en a beaucoup, des administrés comme ça, qui viennent vous voir et vous parlent avec véhémence pendant 45 minutes.
On en a quelques-uns, oui. Ouais, moi je suis assez amère comme ça quand je vois des gens qui se lancent dans des procédures, dans des menaces. On pourrait tellement discuter, ça serait tellement plus simple. Mais bon, là, visiblement, il veut rien entendre, il a son projet, il n'en démordra pas, donc ça se terminera devant le tribunal administratif. Et pour moi, ça va représenter une charge de travail supplémentaire, dont je me serais vraiment bien passée, parce que j'ai autre chose à faire.
C'est pour ça que vous ne souhaitez pas vous représenter en 2020 ?
Oui, entre autres, parce que j'estime que c'est une perte de temps. Moi, je me suis présentée en tant que maire, c'était pour mener à bien des projets qui sont dans l'intérêt de tout le monde, donc des choses comme l'éclairage public, rénover l'école, voilà, des projets où on avance, où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde est content d'habiter Étavigny, parce qu'Étavigny est un village où il fait bon vivre.
Oiseau qui se penche, tourne autour des branches dans le ciel bleu. Le coq de l'église tourne sous l'emprise du vent joyeux. La fête aujourd'hui met du soleil dans le pays. Dans chaque logis, le bonheur chante et l'amour sourit. Un beau vieux manège tourne le cortège sur l'air.
Au-delà de la baisse des dotations et du comportement parfois limite de certains administrés, c'est la loi NOTRe qui a accentué le malaise des maires en milieu rural. La loi NOTRe, pour nouvelle organisation territoriale de la République, consacre et amplifie la montée en puissance des communautés de communes. Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes doivent intégrer une structure intercommunale d'au moins 15 000 habitants. Ces intercommunalités ont des pouvoirs élargis en matière de gestion des déchets et de promotion du tourisme. À partir de 2020, elles seront chargées de l'eau et de l'assainissement à la place des communes. Résultat, les petits maires se sentent dépossédés. Stéphane Combe a rencontré Gilbert Parmentier, le maire des missionnaires des Aulneaux dans la Sarthe.
Gilbert Parmentier ?
Moi-même.
Bonjour.
Bonjour.
On arrive chez vous dans ce corps de ferme.
Oui, oui, oui.
Vous êtes fermier ?
Non, moi je ne suis pas agriculteur, c'est ma femme qui est agricultrice. Moi je suis retraité de l'éducation nationale et commis de ferme. Depuis le début de ma retraite, voilà, donc je lui donne un coup de main.
On va quitter peut-être votre ferme, on va aller faire un petit tour dans la commune où vous étiez le maire.
Non, je ne vais pas me rendre avec vous aux Aulneaux. Je suis parti de mon poste de maire des Aulneaux. Voilà, il ne faut pas non plus que j'abuse et que j'y sois tout le temps.
Alors Gilbert Parmentier, pourquoi vous avez démissionné ?
Alors c'est le fait de se rendre compte, là maintenant, avec la constitution de communautés de communes de plus en plus importantes, de plus en plus étalées et de plus en plus nombreuses. Il y avait 13 000 habitants dans la communauté de communes du Saunois, maintenant dans le Maine-Saunois on est 29 000. On avait des réunions à 43. Là, maintenant, on a des réunions à 78. C'est une vraie assemblée. C'était disproportionné par rapport aux problèmes que peut rencontrer les zones. Et le retour sur les zones est vraiment... les poubelles. Voilà.
On ne prend pas en compte, dans l'intercommunalité de communes à laquelle vous apparteniez, on ne prenait pas en compte votre parole ?
Non. Pourquoi ? Non, c'est même quelquefois tourné en dérision. On vous plaisante, après...
On se moquait de vous ?
Ah oui, c'est pas agressif, mais ça reste moqueur. Et quand vous avez pris ce pli-là, eh bien, vous vous apercevez qu'au niveau même de grandes réunions, sur des sujets plus importants, on continue à vous tourner en dérision, même si la chose que vous dites est vraiment très intéressante et très importante pour le reste du groupe. Et puis en plus, dans cette intercommunalité où on passe de commission en commission, on a l'impression que la parole n'est pas entendue. Donc les décisions sont prises, alors quelquefois même pas par l'intercommunalité, par la préfecture, hein, puisque la décision d'agrandir l'intercommunalité a été prise par monsieur le préfet, hein, même si la communauté de communes du Saulnois avait voté contre. Eh bien, monsieur le préfet passe par-dessus tout le monde et on n'est pas considéré en tant qu'élu, on n'est plus considéré. On est là pour les responsabilités et pour les ennuis. S'il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, on va retomber sur vous. Mais si vous avez envie de faire que les choses se passent de bien, eh bien, vous n'avez presque pas de pouvoir, sauf d'aller, là encore, d'aller voir monsieur le député, voir la sous-préfète, voir, réunion. On est là pour prendre des responsabilités pour lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et donc, on est un petit peu transformé en shérif, hein, pour les problèmes de personnes qui roulent trop vite, de coupures d'eau, de coupures d'électricité. Maintenant, qu'est-ce que j'ai possibilité de décider ? On a aménagé la place du village. Voilà, on a aménagé la place du village. On a revu la salle des fêtes. Comme il y avait beaucoup d'enfants, donc on a fait un parc de jeux et tout ça. Mais on est prisonnier. On est un peu prisonnier.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Luc Rouban, vous êtes chercheur au CEVIPOF, spécialiste de la fonction publique, de la vie politique et des institutions. Vous avez beaucoup travaillé sur ce phénomène de burn-out des maires. Plus d'un millier de maires a démissionné depuis 2014. Est-ce qu'on peut parler d'une vague de fond ?
Oui, certainement, mais enfin la vague de fond, vous savez, c'est comme les tsunamis, ça se prépare, et le tremblement de terre initial, on a commencé à le sentir déjà il y a quelques années, notamment en 2014 lors des municipales, lorsque beaucoup de maires de petites communes avaient décidé de ne pas se représenter et avaient laissé tomber parce que justement ils étaient surchargés de travail, ils étaient épuisés et ils ne voulaient pas reprendre un nouveau mandat. Donc effectivement c'est une vague de fond qui se propage tout de même puisque dans le fond cela réunit des maires et de gauche et de droite. Et donc dans ce cas-là on voit effectivement que vous avez une réaction un petit peu commune qui alors se discrimine en quelque sorte plutôt en termes de taille de communes, hein, puisque c'est une crise qui touche surtout les petites communes à la fois rurales et les petites communes de moins de 1000 habitants qui sont en périphérie de grandes métropoles ou dans des zones de banlieue difficiles.
Comment vous expliquez que ce burn-out ou ce malaise des maires, on le retrouve dans les petites communes et pas dans les plus grandes communes ? Est-ce que ce n'est qu'une affaire de marge financière ?
Oh non, c'est pas qu'une affaire de marge financière, c'est aussi une affaire de disponibilité du personnel, de la possibilité de disposer de cadres, de services. Parce que si vous êtes dans une commune d'un certain niveau, vous avez donc des cadres de la fonction publique territoriale qui sont très compétents. Donc si vous voulez, vous avez des juristes, des personnes compétentes pour prendre en charge tous les dossiers. Le problème des petites communes, c'est que vous êtes tout seul, pratiquement. Vous avez une secrétaire à mi-temps qui est elle-même retraitée, puis vous êtes très rapidement débordé. Dans un contexte, je voudrais le rappeler, qui est celui d'une complexité croissante du système juridique.
Alors justement, allons voir comment ça se passe dans une commune un peu plus grande, à Côtebec-les-Elbeuf, 10 500 habitants. Nous sommes dans l'agglomération de Rouen, mais tout autour, c'est plutôt la campagne. C'est une ville avec beaucoup d'ouvriers et d'employés du secteur pharmaceutique. Et nous avons rendez-vous en mairie.
Bonjour, on est journaliste à France Inter, on a rendez-vous avec
Monsieur
Bonneterre.
Oui, tout à fait, je vais prendre le maire.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Laurent Monnater, maire de Côte-Bac-les-Elbeufs. Enchanté, bienvenue.
Merci de nous accueillir.
Avec plaisir.
Donc ce matin, vous faites quoi?
Alors là, j'ai déjà, depuis 8 heures, reçu plusieurs rendez-vous des audiences, des citoyens ou des professionnels qui veulent voir le maire. Et puis là, dans quelques minutes, on va aller faire la réunion de pré-rentrée avec les directeurs, beaucoup de directrices d'école et l'inspecteur d'éducation nationale pour préparer la rentrée de lundi.
Donc on va vous suivre.
Absolument, avec grand plaisir.
Allez bien, ça va ?
Bon, bonne pré-rentrée à tout le monde. Je vous propose qu'on se donne une heure de réunion comme on avait fait l'année dernière, si ça vous va, ça permet en général de balayer les sujets. On va peut-être faire un tour de table, même si je crois que tout le monde se connaît, mais enfin comme il y a quelques nouveaux, on va commencer par un Tamion.
Julien de Saint-Germain, directeur de l'école élémentaire Saint-Exupéry.
Cécile Berger, nouvelle directrice de l'école Polaire.
Bon, mais écoutez, bonne pré-rentrée aujourd'hui. Bonne rentrée lundi matin. Moi, je ne sais plus où je viendrai. Je crois qu'il y aura prévu. On a fait un planning et puis bienvenue au nouveau. Bon courage. Merci à tous.
Laurent Monnater. Là, vous sortez de réunion avec les directeurs d'école. Vous en avez beaucoup des réunions dans votre agenda ?
Oui, j'évite d'en avoir trop parce que un des risques ou des tentations de la fonction de maire, c'est pas un métier. Moi, j'ai un métier à côté, je travaille.
Vous faites quoi ?
Je suis dirigeant d'un bailleur social. Et donc, une des tentations, un des risques, c'est de vous enfermer beaucoup en réunion. Il y a plein de points techniques à voir. Moi, je considère que la technique doit d'abord rester aux techniciens. Ensuite, les validations, les arbitrages politiques, les choix sont faits par les élus. Mais peut-être ce qui est le plus important dans l'engagement politique, dans l'engagement public, c'est de bien vérifier que ce qu'on croit être la bonne décision a des effets positifs sur nos concitoyens. Parce que sinon, ça reste de la technocratie qui ne sert pas à grand-chose.
Comment allez-vous ? Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de maires de plus petites communes qui ressentent un malaise. Certains démissionnent parce que moins d'argent de la part de l'État, parce que moins de pouvoir aussi. Vous, vous allez comment ?
Alors moi, je vais bien. Je suis un maire heureux, je le dis assez régulièrement. Je conçois très bien. Hein. Je ne veux pas faire un tableau tout blanc du tableau que certains veulent faire tout noir. Je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est entre les deux. Je conçois très bien qu'il y ait des maires de petites communes qui soient en grande difficulté. Les fonctions sont de plus en plus techniques, les moyens sont limités, les exigences de nos concitoyens sont parfois croissantes. Donc je peux comprendre que cette difficulté se fasse jour, mais globalement, je trouve, pour côtoyer beaucoup de maires dans l'intercommunalité qui est la nôtre, la métropole de Rouen, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de maires qui prennent plaisir à ce qu'ils font, qui mènent à bien les dossiers qui leur tiennent à cœur. Alors, le fait d'avoir moins d'argent ou de devoir dépenser moins, ça oblige à faire des choix. Mais la politique, c'est d'abord de faire des choix.
Où est-ce que vous avez fait des économies ?
Alors, moi, je suis maire depuis 4 ans. J'ai été élu en 2014. On avait une collectivité ici, à Côte-Bec-les-Elbeufs, qui vivait sur un grand pied par rapport à sa taille. On est une ville de 10 000 habitants. On avait 7 jumelages. Les élus se promenaient beaucoup. On avait des demi-douzaine de publications municipales qu'on a resserrées. On avait une consommation fêtes et cérémonies, alcool d'hiver qui était très importante. Et puis on avait des projets qui étaient surdimensionnés pour la commune. On avait un projet d'éco-quartier. Je suis ni contre les quartiers ni contre l'écologie, bien au contraire. Mais dans une ville où le taux de vacance des logements sociaux était à 10%, aller construire 1300 logements, c'était pas la priorité. Donc on a interrompu ce quartier-là et on continue à gagner des habitants. On a gagné 700 habitants en 5 ans. Et puis on s'est engouffré de manière très volontariste dans les réseaux sociaux, ça coûte rien. Donc il faut à chaque fois faire des choix, mais on a maintenu l'argent sur les points qui nous semblaient le plus important. On a maintenu les subventions aux associations, on continue à investir énormément sur le scolaire. Et puis il y a des choses qu'on fait moins. Il y a un sujet que beaucoup de maires redoutent d'aborder, moi je l'aborde sans phare, c'est la question des ressources humaines. Sur notre budget d'environ 11 millions, c'est plus de 50%, hein, la masse salariale. Évidemment, il y en a besoin. le service public il n'avance pas tout seul dans la ville. Il faut nettoyer les rues, il faut entretenir les espaces verts, il faut maintenir le patrimoine communal. Mais en même temps, il faut savoir, quand c'est possible, faire des économies sur ces dépenses-là de personnel. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nos dépenses de personnel n'ont quasiment pas progressé. Est-ce que vous remplacez tous les départs en retraite ? Il faut se poser la question très pragmatiquement. On a réorganisé, par exemple, les tournées de ménage dans cette mairie. Ce bureau que j'occupe était nettoyé tous les jours. Comme il se trouve que je ne mange pas par terre et que je ne jette pas des choses, est-ce qu'il fallait vraiment nettoyer ce bureau toujours ? Évidemment non. Maintenant, il est nettoyé quand c'est besoin. Et évidemment, pendant ce temps, les agents font autre chose.
Donc il y avait des marges pour faire des économies ?
Il y avait des marges, et je pense qu'il y a encore des communes, des territoires où il y a des marges qui existent. Il y a des territoires très pauvres qui souffrent, on entend ces maires, hein, je les entends, mes collègues qui ont des difficultés, mais il y a aussi des territoires qui ont encore de l'argent, avec de la richesse, et donc il faut que ce soit peut-être mieux réparti. Moi je veux pas donner de leçons, hein, c'est extrêmement compliqué de toucher à l'ensemble du système des dotations, de péréquation entre les communes, c'est très compliqué, mais on sait aujourd'hui que les finances sont pas forcément très bien réparties.
Il y a un petit terrain de jeu pour les enfants devant la mairie, donc on va aller voir les parents.
Dans Côte-Bec, il y a beaucoup de choses à revoir déjà. Quand vous voyez l'état de la route Côte-Bec, nous en poussette, on ne peut même pas passer parce que les voitures ils sont mal garées, les poubelles ils restent en plein milieu du chemin, il n'y a rien.
En termes d'équipement et d'aménagement municipaux, il faudrait investir ?
Faudrait améliorer déjà, investir. Déjà que les gens déjà rentrent leurs poubelles, et que ça soit nettoyé aussi, parce que vous avez qu'à aller dans la route Côte-Bec par là-bas, vous allez voir. Moi j'en viens, même au niveau des vitrines, il y a plein de magasins où c'est fermé, ça fait pas envie, hein, parce que franchement...
Mais est-ce qu'on ne demande pas tout au maire ? On le rend un peu responsable de tout, parce que c'est finalement le seul élu auquel on a accès.
Oui, je pense qu'on lui renvoie un peu tout sur lui, et les autres se déchargent de...
Prend pour tout le monde.
Voilà, c'est ça, oui.
Merci, merci vous aussi, au revoir.
Ah non, tu l'as pas mangé du tout. Il a voulu, tu l'as pas mangé. Un petit peu, mais elle voilà.
Bonjour.
On peut se mettre de l'autre côté, ça sera plus simple, parce que là, ça va être un bureau un peu petit.
D'accord.
Je vais ouvrir une salle.
Yvon Scornet, vous êtes conseiller d'opposition communiste,
oui.
Ici à Côte-Bec-les-Elbeufs. Est-ce qu'avec ces baisses de budget dans les communes, est-ce qu'avec la présence d'intercommunalités de plus en plus grandes, le rôle du maire n'est pas voué un peu à disparaître ?
Bien sûr, bien sûr. Quand je disais, on va avoir un peu un système comme les Allemands. Ils ont des communes en Allemagne, mais les communes n'ont pas vocation de gérer réellement. C'est comme si on disait, maintenant le maire, il va faire les mariages, il va aller inaugurer certains trucs, hein, il suffit d'avoir un costume et une cravate, et puis c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire au bout d'un moment ? On va faire disparaître petit à petit les communes. C'est-à-dire maintenant, on va se retrouver, au lieu d'avoir des communes, on va dire, on va faire comme l'Allemagne. On va faire des landers énormes, c'est-à-dire qu'on commence à faire des régions qui sont de plus en plus grandes, et on va faire des communautés de communes. Mais entre deux, il n'y aura rien. Le poids de l'intercommunalité sera tellement plus important que les maires ne serviront, ils seront là pour renseigner. En gros, quoi. Donc, à quoi ils serviront ? À rien.
C'est-à-dire qu'ils n'auront plus le pouvoir.
Ah non, non, non. Et surtout, le citoyen, à qui va s'adresser ? Quel est l'élu de proximité ? C'est le maire, c'est le conseil municipal, ce sont les élus de proximité. Nous, on rend compte aux citoyens. Qui a l'occasion de rencontrer le président de la métropole ? Comment il va remonter au conseil de la métropole les problèmes ? Actuellement, il les remonte par les mairies. Mais demain, si les mairies sont juste... Alors, on sera une boîte postale. On n'aura plus de rôle. Et le problème, c'est que quand vous aurez une démarche à faire ou un problème à soulever, vous n'aurez personne en face. Les mairies, c'est comme les postes, c'est comme le... On va les fermer. Ça va libérer des bâtiments qui vont être vendus, peut-être. Mais non, il n'y a pas. Il faut maintenir le pouvoir municipal. Le pouvoir, seulement le pouvoir, mais le côté de démocratie que représentent les municipalités. C'est le seul endroit où les gens ont l'occasion de s'exprimer et d'avoir quelqu'un en face qui peut répondre. À une époque, on parlait de décentraliser, et maintenant, on veut retirer les couches, et après, bon, il faut aller où ? À Paris, pour avoir des papiers, pour faire des démarches, etc. C'est complètement idiot. Il faut qu'on garde les communes telles qu'elles sont. Après, il y a des communes qui peuvent fusionner parce que ça ne devient plus vivable. Mais ça ne doit pas être le principe. Le principe, c'est la commune le plus proche du citoyen. Plus on éloigne les élus du citoyen, plus on tue la démocratie.
Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre engagement de chaque jour. Merci pour votre détermination. Merci pour vos colères. Merci pour l'engagement pour la République. Vive la République et vive la France.
Une bien belle déclaration d'amour faite l'année dernière par le président Macron devant le congrès de l'Association des maires de France. Mais chacun sait qu'il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour. Des preuves que les maires attendent désormais avec un rien d'impatience. Campagne au bord de la crise de mer, c'était un reportage de Géraldine Allot et Stéphane Combe. Prise de son, Pierre Quintard et Gilles Gallinaro. Réalisation, Violaine Ballet. Une émission à retrouver, comme chaque semaine, sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.